Bonjour, monsieur le préfet.
Bonjour madame.
Le parc Val d'Adour à Rabastens de Bigorre a été saccagé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin dernier à l'aube du marché hebdomadaire, le marché aux bestiaux. Alors ça pourrait sembler presque rien, sauf que ce lieu, c'est un lieu un peu stratégique quand même pour l'économie agricole locale. Hein. Ce parc aux bestiaux, ce marché aux bestiaux à Rabastens de Bigorre, il est le seul dans les Hautes-Pyrénées. Il n'y en a pas d'autres non plus dans les départements limitrophes. Là, on parle quand même de murs tagués, d'excréments humains laissés dans les bureaux, de matériel cassé. D'abord, quelle est votre réaction sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous en savez de ce qui s'est passé à Rabastens de Bigorre?
Alors la dégradation du marché de Rabastens de Bigorre, je la condamne. Je la condamne avec la plus grande fermeté. C'est inadmissible et je la condamne d'autant plus que l'État s'est engagé fortement ces dernières années au regard de l'aspect stratégique de cet outil pour le monde agricole. Alors notamment au travers de subventions, hein, c'est plus de 281 000 euros de subventions qui ont été versées pour améliorer donc tous les travaux qui ont été dégradés par des auteurs qui ne sont pas encore identifiés par la justice au moment où on se parle. Toutes ces dégradations, c'est un peu aussi une partie de l'argent public de l'État qui a été dégradé et qui porte atteinte au monde agricole. Donc c'est inadmissible, ce doit être condamné. Les dépôts de plainte ont été déposés, alors notamment par la maire de Rabastens de Bigorre et par le président d'LVA. L'objectif, c'est que derrière, on arrive à retrouver et identifier précisément les auteurs de manière à pouvoir faire réparer les dégâts. C'est le principe de notre justice en France.
Alors, on entend que l'État a déjà injecté de l'argent pour ce site. Le directeur du parc, Pierre Bazette, parle de 20 000 euros là, de matériel cassé qu'il faut remplacer. Ça, c'est sans compter les centaines de milliers d'euros qui sont liés à la vente des bêtes qui a dû être annulée, puisque le marché a été annulé lundi dernier. Est-ce que, du coup, l'État va encore aider qui et comment décide de l'aide ou pas de l'État pour réparer ce qui a été cassé, quoi?
Alors dans ces moments-là, d'abord, il y a un temps pour tout et il faut faire les choses dans l'ordre. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ne pas annuler une seconde vente au marché de Rabastens et tout faire, en tout cas localement, même si tout n'est pas impeccable sur les murs, pour pouvoir réaliser la prochaine vente, parce que c'est important. C'est des animaux qui sont prêts à être vendus, prêts à être exportés. Donc il ne faut pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Donc ça, c'est important. Après, sur le règlement, ça dépend si on identifie les auteurs, évidemment. Si les auteurs sont identifiés, ils sont condamnés, ils rembourseront les dégâts. S'ils ne sont pas identifiés dans un premier temps, je rediscuterai, ils le savent, avec Pierre Bazette d'LVA pour trouver une solution intelligente qui permette de remettre en état ce bâtiment. J'y étais il n'y a pas longtemps. Ils étaient en train de terminer la pose des bandes de plâtre dans les couloirs. J'avoue que de voir les tags, de savoir tout ce qui a été dégradé.
Vous êtes allé là sur place ?
Non, je ne me suis pas déplacé sur place, mais la description qu'on m'en a faite suffit et vous l'avez complétée. Mais c'est de la dégradation gratuite. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui dégradent un outil de production, alors que la communauté de communes Adour-Madiran, la maire de Rabastens sont des gens qui sont toujours dans des dispositions aidantes et bienveillantes pour faire en sorte que la vie ensemble se passe bien sur leur territoire.
Pour vous, est-ce que c'est le monde agricole qui était visé ou c'est plus de l'ordre de la bêtise ? Ou vous préférez attendre que la justice fasse son travail avant de le dire ?
Je vais laisser la justice faire son travail, évidemment, parce que quand je vous dis que j'aimerais être dans la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est sans doute un vœu pieux. Mais moi, ce que je considère vraiment sur ce dossier-là, c'est que je ne crois pas que ce soit une atteinte au monde agricole. Je crains que ce ne soit que de la bêtise humaine, mais ça reste inadmissible. On n'a pas, je condamne, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le monde agricole, lorsque le monde agricole, dans le cadre de manifestations, commet des dégradations ou dépose des déchets, ils savent que je ne suis pas content. Donc ce n'est pas pour être content, derrière.
Là, quand vous faites allusion aux tonnes de fumier laissées dans la préfecture.
Je ne fais pas allusion, je le dis très clairement. Je veux dire, pendant les manifestations agricoles, c'est courant qu'il y ait des dépôts de déchets plus ou moins agricoles devant des édifices publics. Ça fait partie d'une forme de manifestation. Je le condamne fermement. Donc ce n'est pas pour ne pas condamner les mêmes dispositions prises par d'autres contre le monde agricole. Donc c'est inadmissible, je le condamne et j'espère de grand cœur que tous les éléments en cours portés par la gendarmerie nationale et le parquet de Tarbes permettront d'aboutir.
Alors, on a bien compris, les enquêtes sont en cours, des plaintes ont été déposées. Aujourd'hui, on ne connaît pas les coupables. Pourtant, des circonstances font que les regards se tournent vers des communautés itinérantes, dont l'une d'entre elles était sur le site précisément dans la nuit de dimanche à lundi. On va laisser la justice faire son travail, vous l'avez dit, monsieur le préfet, mais quand même, ça pose justement la question de l'accueil de ces communautés itinérantes qui s'installent un petit peu partout dans les villages des Hautes-Pyrénées. On en voit en ce moment dans l'Aube Marquisat, mais pas seulement. C'est quoi les règles pour accueillir ces communautés itinérantes? Et puis, comment les élus locaux ils sont aidés pour pouvoir les accueillir puisqu'ils arrivent? Ils ont besoin d'eau, d'électricité, ils ont besoin d'eau, y compris quand il y a des restrictions d'utilisation d'eau, de consommation d'eau. Quelles sont les règles, monsieur le préfet?
Alors déjà, dans le cadre du travail qui est accompli pour avoir un schéma d'accueil des gens du voyage, donc qui est un document qui est élaboré, alors la compétence d'accueil des gens du voyage, c'est une compétence qui relève de l'établissement public de coopération intercommunale, donc des communautés de communes. Il y a un schéma départemental qui est élaboré lors de la dernière réunion qu'on a faite pour lancer une révision de ce plan. Et je veux saluer ici l'engagement de tous les élus, hein, parce que quand on discute, trouver des terrains, aujourd'hui on a besoin de terrains pour plein de choses, trouver des terrains pour accueillir des gens du voyage, ça nécessite toujours un gros travail de conviction auprès des élus, auprès des habitants, pour identifier ces terrains. Donc ce travail, il est engagé depuis plusieurs années. On essaye d'identifier des terrains, et il se trouve que sur la communauté de communes Adour-Madiran qu'on évoquait, Frédéric Rey, le président, a toujours été à la recherche de solutions constructives. Après, je rappelle souvent, quand je rencontre des représentants de la communauté des gens du voyage, qu'il y a des règles dans ce pays. On respecte leur mode de vie, mais il y a des règles. Alors la première des règles, c'est quand on décide de venir dans un département avec 100-150 caravanes, on en avise la communauté de communes dans laquelle on vient. On réserve des places sur l'aire de grand passage, et s'il n'y a pas de place, on essaye, avec les élus en charge d'eux, de trouver une solution. Mais en aucune façon, on ne vient s'imposer sur un terrain en dégradant des infrastructures qui souvent ont été financées par la puissance publique, en utilisant des moyens de lutte contre l'incendie pour laver les caravanes. Ce sont des dispositifs, c'est pas tous sans doute, mais si on veut être respecté, la première obligation, c'est de respecter les règles. Donc on leur dit, je ne laisserai rien passer. Voilà, je considère, il y a une procédure derrière. Donc la procédure, c'est que le propriétaire du terrain et le PCI dépose plainte, on établit un rapport administratif. Ce sont des choses qui sont compliquées parce que pendant ce temps-là, ils sont là. Il y a un délai pour faire une mise en demeure de quitter les lieux. Et une fois qu'on a fait la mise en demeure de quitter les lieux, parfois, ils font un recours devant le tribunal administratif. Je décide d'accorder le concours de la puissance publique, de la force publique, pour les forcer à partir. L'histoire démontre que quand on en est à ce stade-là de la procédure, de même, ils s'en vont. Si on regarde à l'échelle du département les occupations de terrain illicites, il y a assez peu de fois où on est obligé d'envoyer des escadrons de gendarmerie mobile et d'en venir au recours à la force.
Alors de même, ils s'en vont, mais cela dit, parfois le mal est fait, c'est-à-dire ils se sont installés et les élus locaux sur place, eh bien, ils ont été très vite débordés, parce que quand des centaines de caravanes arrivent, s'installent, se branchent sur les réseaux d'eau ou d'électricité, comment faire? Ils n'ont pas forcément envie d'aller dans la confrontation, et on les comprend.
Oui, non, mais le sujet revient régulièrement, il n'est pas propre au département. À chaque fois, on essaye, et c'est ce que fait très bien Frédéric Rey, je le redis, pour la communauté de communes Adour-Madiran, il y a toujours ce contact, cette prise de contact, de proposer un terrain, de dire j'ai un terrain qui est disponible. Les gens sensés, en tout cas, disent oui, il y a une convention qui est établie, ils disent je vais rester 15 jours, je vais payer tant à la commune. Quand il y a une convention, en général, ça se passe bien.
Mais avec ces communautés itinérantes, est-ce que c'est possible d'établir des conventions quand
des conventions. L'idéal étant qu'on ait toutes les aires de grand passage nécessaires. Est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien. Mais ce qui est vraiment important, c'est que, en tout cas, la puissance publique, les collectivités, l'État, on ne se met pas en défaut de procédure. Par contre, je passe un message, je ne sais pas s'ils écoutent Radio Présence, mais pour les gens du voyage, et alors d'autant plus, je le dis parce que ça a le don de m'irriter, que c'est des gens qui sont dans des communautés évangéliques, donc ils portent un message de paix, de respect d'autrui. Le respect d'autrui, ça commence par le respect du bien matériel d'autrui, du fruit du travail des collectivités, des agriculteurs qui parfois voient leurs champs envahis alors qu'ils ont des cultures dessus. C'est de dire qu'il faut respecter. Et l'exemple que je donne toujours aux gens du voyage, c'est lorsque vous décidez de prendre des vacances, que vous avez réservé un hôtel du 10 au 15 juillet pour 4 personnes, si vous arrivez le 8 juillet en disant que vous êtes 40 et vous voulez 12 chambres, je ne connais pas un hôtelier qui vous prend. Donc le sujet, il est là. Il faut respecter les règles. Donc les communautés itinérantes doivent respecter les règles. Et derrière, on fait le travail nécessaire avec les collectivités pour améliorer les conditions d'accueil. Dans les choses qui se passent bien ou qui se passent de mieux en mieux, je le dis parce que nous sommes à Lourdes, le pèlerinage annuel des gens du voyage à Lourdes se passe de mieux en mieux parce qu'on a réussi à construire cette relation de réservation de terrain, d'ordre d'arrivée, de calibrage des terrains.
Et parce que les forces de l'ordre sont peut-être davantage déployées sur le terrain à ce moment-là pour surveiller, entre guillemets, que tout se passe bien.
Les forces de l'ordre qui sont présentes lors du pèlerinage des gens du voyage, elles sont surtout destinées à veiller au respect de la canalisation des flux. On a assez peu on a de moins en moins de problèmes sur les occupations de terrain. On en a toujours un petit peu, hein, c'est résiduel. Et puis il y en a qui profitent aussi, qui viennent pas au pèlerinage des gens du voyage, mais qui en profitent pour s'installer sur des terrains.
Groupe, ouais.
Mais le principe de base là-dedans, et il faut vraiment que les gens l'entendent, c'est de respecter les règles. De manière générale, et pas que pour cette communauté-là, si tout le monde respecte les règles, moi je serais un préfet très heureux, et le plus heureux des préfets, si les gens respectaient le code de la route. Voilà, en venant ici dans vos studios. On n'a pas relevé toutes les infractions, mais on a assisté à un certain nombre de stops grillés, etc. Mais tout ça, ça met les gens en danger. Parfois, il y a des incidents graves. Donc moi, je pense que le message aujourd'hui, c'est respectons les règles. C'est ça, le contrat social. Et ça permet d'ailleurs de mieux vivre ensemble.
Pour en finir sur les gens du voyage et les communautés itinérantes de manière plus large, vous savez combien sont attendus là, dans les Hautes-Pyrénées au cours de cet été? Vous savez où ils vont arriver et à combien ils vont arriver?
En fait, on ne sait jamais. Enfin, c'est le principe,
combien sont annoncés officiellement en tous les cas?
En tout cas, s'ils respectaient les règles, ceux qui annoncent et qui respectent les règles, on a des dates à peu près de passage. Alors, c'est par une centaine de véhicules quand ils s'annoncent, mais on sait sur quel terrain ils vont. C'est perlé sur l'été, donc il n'y a pas de, j'ai pas de grands chiffres à vous communiquer là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui est l'irritant, c'est évidemment ceux qui ne s'annoncent pas, qui s'installent sur les terrains qui ne sont pas prévus. Et donc, comme ils ne sont pas prévus et qui ne s'annoncent pas, il m'est difficile de vous donner le chiffre.
Et ça entraîne un espèce de climat de suspicion. C'est ça qui est dommage, en fait.
C'est un climat de suspicion et ça jette effectivement l'opprobre. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que moi, je ne fais pas de raccourci. Mais il est loisible de faire un raccourci en disant des gens s'étaient installés à l'abri de la pluie, de l'orage, avec l'accord de la mer sur le parking du marché de Rabastens pour être à l'abri d'un orage. Je veux espérer que des gens à qui on a tendu la main n'ont pas saccagé le marché aux bestiaux de Rabastens.
Jean Salomon, vous êtes de passage dans les studios de Radio Présence à Lourdes. On ne peut pas vous laisser partir sans peut-être un mot sur le Tour de France dans une semaine. On sera en plein Tour de France, deux étapes qui concernent les Hautes-Pyrénées en tous les cas. Comment ça s'annonce là, de ce point de vue-là? Des caravanes aussi, pas les mêmes.
Alors, le Tour de France, c'est presque une figure imposée dans le département des Hautes-Pyrénées. J'ai la chance de vivre ma quatrième édition du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées avec des variations entre une et trois étapes.
Vous êtes rodé.
Je suis rodé et surtout, c'est pas moi, c'est mes équipes. Enfin, mes équipes sont rodées. La collaboration avec Amaury Sport Organisation est rodée. C'est quelque chose qui tourne. On reste toujours vigilant, justement parce que.
C'est quoi le plus grand risque? C'est quoi le plus grand danger? Il y en a un.
Le plus grand danger, toujours, c'est un accident pendant la course ou un autre événement dans le département qui nécessite de déplacer des forces. Parce que, évidemment, pendant qu'il y a le Tour de France, la vie continue. Mais. Moi, je crois vraiment qu'on voit bien l'exemple du Tour de France et l'exemple, j'allais dire presque emblématique, de quelque chose de bien préparé avec les services de l'État, avec les services du conseil départemental, avec les communes, qui se préparent un an avant. Enfin, quand le Tour de France se termine, on est déjà dans la préparation du suivant. C'est quelque chose de bien huilé. Chaque année, on réinterroge tous les dispositifs pour ne pas se dire on passe au même endroit. Le Tour Malais, c'est facile. Enfin, c'est facile d'organiser, le monter, je ne sais pas. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce travail de confiance aussi. Donc moi, je suis serein, mais je serai vigilant.
Et on imagine aussi pour vous un été un peu studieux pour préparer l'avenue du Pape à Lourdes à la fin du mois de septembre.
Alors effectivement, là aussi, là ça se prépare, c'est moins courant que le Tour de France. Mais effectivement, on est déjà évidemment avec les équipes de la Conférence des évêques de France, avec les équipes du ministère de l'Intérieur, avec les équipes du diocèse de Tarbes-Lourdes. On travaille à cette séquence d'organisation avec les équipes du Vatican. J'avoue que c'est passionnant,
Ça
ça
a
va
aussi
nous
des enjeux de
occuper,
sécurité
ça va nous
assez.
occuper évidemment tout l'été. On passera rapidement des messages à l'usage des futurs participants, hein, sur notamment le fait de favoriser des transports en commun, du déplacement groupé.
Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si les routes seront bloquées quand on vient de Trie-sur-Baïse,
Il est trop tôt
de
pour le dire,
Cotterêts.
mais il est évident qu'il y aura une partie aux abords immédiats du sanctuaire et de la ville de Lourdes qui feront l'objet de fortes restrictions, de très fortes restrictions de circulation, parce que je dois assurer aussi la sécurité et la fluidité 150 ou un peu moins de 200 000 personnes qui pourraient être accueillies sur le site du sanctuaire, et d'assurer la sécurité de ces gens-là, notamment la fluidité des véhicules de secours, si on devait avoir besoin d'évacuer une personne victime d'un malaise ou de quelque chose de plus grave.
Et nous serions très heureux de vous avoir dans nos studios au début du mois de septembre pour évoquer toutes ces questions-là avec plus de détails.
Avec plaisir, si vous m'invitez.
Merci beaucoup, monsieur le préfet.
Merci beaucoup.